veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable. Juridiction. Convocation.
Assignation. Assignation.
La
procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Provocation.
Incompétence.
Amiable.
Signalation.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Usurpation.
Flagrante.
Constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Usurpation.
Requête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir, enfin rebonsoir. C'est donc le fil d'Ariane, la rubrique proposée par des avocates pour apporter des informations pratiques sur le droit et la justice. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de l'état d'urgence, puisque c'est un sujet d'actualité. Pour en parler, on a donc un invité qui est Thomas Fourré, qui est également avocat, qui est président de la section locale du syndicat des avocats de France. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir le collectif d'Ariane.
Bonsoir le collectif d'Ariane.
Donc aujourd'hui, on va reprendre un peu le cadre juridique de l'état d'urgence, histoire de savoir d'où ça vient et peut-être refaire un tout petit point historique de ce dispositif, qui est théoriquement une mesure d'exception. On verra ensuite quelles sont les mesures possibles, notamment dans le cadre actuel de l'état d'urgence, puisqu'il a été réformé récemment. Et puis on verra quels sont les recours possibles, si tant est qu'il en existe.
Alors on va commencer par le cadre juridique de l'instauration de l'état d'urgence. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse, mais on s'est dit que c'était quand même important de rappeler un petit peu d'où vient l'état d'urgence et comment ça se fait qu'on peut à un moment donné déclarer l'état d'urgence en France. Alors il faut savoir que l'état d'urgence vient en fait d'une loi du 3 avril 1955 qui prévoit que le Conseil des ministres peut déclarer l'état d'urgence soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant le caractère de calamité publique. Donc cette loi, elle est importante parce que finalement, c'est cette loi qui précise ensuite les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence et que nous détaillerons dans le cadre un peu de la deuxième partie de l'émission. Mais voilà, donc c'est cette loi qui pose cette possibilité d'instaurer l'état d'urgence et c'est sur la base de cette loi qu'après les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence a été décrété le 14 novembre 2015. Alors, à ce moment-là, l'état d'urgence n'a pu être décrété que pour 12 jours, puisque la loi de 55 prévoit qu'au-delà de 12 jours, la prorogation ne peut être autorisée que par une nouvelle loi. Et c'est pour ça qu'on a eu un peu une accumulation de textes après les attentats du 13 novembre et qu'une nouvelle loi a été adoptée le 20 novembre 2015 pour proroger l'état d'urgence pour une durée de 3 mois, et ce à compter du 26 novembre 2015, ce qui fait que en fait, l'état d'urgence aujourd'hui est prorogé jusqu'au 26 février prochain. Il faut savoir aussi, toujours pour rester un peu sur le cadre juridique, que par rapport à cette loi du 20 novembre 2015 et par rapport au décret du 14 novembre, il y a eu quand même des tentatives pour faire échec, d'une certaine façon, à l'application de la loi. Il faut savoir qu'il y a eu d'abord une question prioritaire de constitutionnalité. Ça veut dire qu'on a en gros saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il considère que les dispositions, notamment les dispositions relatives aux assignations et résidences, dont on parlera tout à l'heure, pour que ces dispositions soient considérées comme inconstitutionnelles. Mais dans une décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a décidé que l'article 6 de la loi de 55, qui prévoit justement la possibilité d'assigner des personnes à résidence, était conforme à la Constitution. Il y a eu une deuxième tentative pour faire échec à l'instauration de l'état d'urgence. Ce sont un certain nombre de personnes, et notamment des associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui ont saisi le juge administratif, et c'est allé finalement jusqu'au Conseil d'État, et qui ont demandé au Conseil d'État de suspendre en fait la déclaration de l'état d'urgence. Et là, je pense que vous en avez entendu parler, le Conseil d'État a rendu une décision le 27 janvier dernier, donc il y a peu de temps, par laquelle le Conseil d'État a refusé de suspendre la déclaration d'état d'urgence. Donc aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est sous le coup de cette loi du 20 novembre 2015, en principe jusqu'au 26 février prochain, mais qui a un projet aussi en cours de loi constitutionnelle pour que finalement la possibilité de déclarer l'état d'urgence soit instaurée maintenant dans la Constitution.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc
Donc, plusieurs mesures peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence, comme les assignations à résidence, qu'on évoquait il y a quelques secondes, des perquisitions, des fermetures de lieux. Sur ces mesures, nous y reviendrons. Il faut savoir que les mesures peuvent être prises soit par le ministre de l'Intérieur, soit par le préfet. Ce sont les deux personnes fortes dans le cadre de l'état d'urgence. Donc, s'agissant des perquisitions, des fermetures des lieux, je laisse ma consoeur.
Petite liste, effectivement, des différentes mesures qui peuvent être prises donc, par l'autorité administrative. Mais avant ça, juste un petit rappel. Donc, dans le cadre de l'état d'urgence, mais en réalité, comme face à toute mesure administrative, il y a deux principes qui sont censés, je dis bien en théorie, censés régir donc, toutes les décisions prises. C'est ce qu'on appelle les principes de proportionnalité et de nécessité. Chaque décision en fait, prise, donc, soit par le ministre de l'Intérieur, soit par le préfet dans le département, donc, est censée être à la fois nécessaire et proportionnelle à la situation, sous le contrôle du juge administratif pour la plupart des mesures. Alors, l'assignation à résidence, on y consacrera une partie entière, puisque c'est une question qui nécessite d'aller un peu plus loin. Moi, je vais commencer par un inventaire des autres mesures qui peuvent être prises donc, par l'autorité administrative. Tout d'abord, le couvre-feu, possible dans le cas de l'état d'urgence. L'interdiction aussi de certaines réunions, alors que le principe est normalement la liberté de réunion. L'interdiction également de circulation de personnes ou de véhicules dans certains lieux et à certains horaires. Donc ça ne peut pas être une interdiction absolue, mais ça peut être une interdiction donc, limitée à la fois à cadre horaire et spatial. Et ces limites sont fixées par arrêté donc, au niveau local. Il est également possible donc, pour les autorités administratives, ministères comme préfectures, de prendre des mesures de fermeture provisoire de certains lieux. Salles de spectacle, débit de boissons, lieux culturels, et on se souvient notamment qu'à Paris, ça avait été le cas donc, immédiatement après les attentats de novembre, il y avait eu justement ces mesures-là qui avaient été prises dans la ville. D'autres mesures sont également possibles, et là aussi on est dans une dérogation très forte au principe habituel applicable, c'est le contrôle de la presse et de la publication, et quelle que soit la nature de la publication. Donc par exemple, les émissions de radio pourraient être interdites. Également donc, les films, pièces de théâtre, enfin vraiment tout ce qui peut toucher à la culture, mais également la presse, enfin toute publication au sens vraiment large du terme. Autre mesure possible, c'est la remise d'armes. J'entre pas trop dans le détail, oui.
Non, j'avais juste une question là sur le truc des médias et de la culture et tout. À un moment, Hollande, il avait dit « Ah, ça je le ferai pas ». Est-ce que c'est dans la loi, du coup, dans le cadre de l'état d'urgence, que du coup, il s'est inscrit qu'il soulève pas ce truc-là? Ou c'est juste une espèce de promesse, on sait pas trop s'il va la tenir?
Sauf erreur de ma part, c'est pas dans la loi, c'est simplement un engagement politique. Mais la loi le prévoit. Après, lui, il n'utilise pas, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas inscrit dans la loi qu'ils ne le feront pas.
D'accord, ok.
Et alors, autre mesure possible, et là, on va entrer un peu dans le détail aussi, c'est les perquisitions administratives. Alors, perquisitions administratives, là aussi, on est dans une dérogation assez forte, puisque le principe est que la perquisition relève du juge judiciaire et d'un cadre pénal. Or, dans le cadre de l'état d'urgence, donc soit le ministère de l'Intérieur, soit le préfet peut prendre une décision d'aller perquisitionner un lieu, donc une mesure administrative. La seule obligation pour l'autorité administrative lorsqu'elle prend cette décision, c'est d'informer le parquet. Mais par contre, il n'y a pas d'exigence d'une autorisation préalable d'un juge, contrairement en temps normal. Et également, il y a le magistrat judiciaire, par exemple, ou le parquet qui souhaiterait empêcher une perquisition, ne pourrait pas le faire, il ne peut pas se positionner contre cette décision administrative. Donc la perquisition, elle permet au service de police...
Mais du coup, ce que je me demande là-dessus, c'est est-ce que ça veut dire que n'importe quelle équipe de flics peut débarquer n'importe où chez n'importe qui? Alors, il n'y a pas un papier administratif qui dit
autorisé par le préfet. Il y a une décision qui est prise, donc une décision de la préfecture ou du ministère, donc ce n'est pas n'importe où, n'importe quand, il y a quand même une décision initiale. Et les conditions, donc, c'est la loi de 55, le motif est qu'il existerait des raisons sérieuses de penser que le lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc on est vraiment, par contre, dans un critère très très large qui permet ces perquisitions, sachant que quand on parle de lieux privés, on pense rapidement au logement, mais en réalité, c'est beaucoup plus large. Ça peut être une entreprise, un garage, enfin, c'est vraiment tout espace en réalité privé dans lequel la police donc, peut pénétrer. Et l'objectif étant censé être la recherche d'éléments de preuve. Et sachant aussi que c'est non seulement les personnes qu'ils envisagent comme étant directement concernées qui peuvent faire l'objet d'une perquisition, mais également l'entourage de ces personnes. Donc on n'a pas non plus de limite sur les personnes concernées. dans le cas d'une perquisition, il est possible de, pour les services de police de saisir du matériel, y compris informatique, mais Thomas nous donnera peut-être plus d'éléments concrets là-dessus après. Donc c'est une mesure, simplement pour terminer sur le cadre théorique, qui n'est pas autorisée par un juge, contrairement au droit commun, qui est possible à toute heure aussi. Là aussi, on est dans une dérogation par rapport au droit commun. En principe, une perquisition, elle n'est possible qu'entre 6h du matin et 21h le soir. Or, ici, dans le cas de l'état d'urgence, la perquisition, elle est possible à toute heure du jour et de la nuit. Par contre, une des seules garanties en réalité de la perquisition, c'est qu'un officier de police judiciaire doit être présent sur les lieux, qu'un procès verbal est censé être dressé et signé par l'occupant, ou alors s'il est absent, par deux témoins, et qu'une circulaire aussi rappelle donc récemment que normalement l'ouverture donc de la porte ou du lieu, l'ouverture volontaire doit être privilégiée, sachant par contre que l'accord d'autorisation de la personne qui occupe les lieux donc perquisitionnés n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire, mais la circulaire a rappelé récemment qu'on devait rechercher au plus possible la volonté, enfin quelque chose d'amiable entre guillemets. Alors, quelques questions maintenant qu'on a rappelé le cadre théorique à Thomas. Thomas. Concrètement, comment est-ce que ça se passe une perquisition ? Voilà, les services de police arrivent, on tape, qu'est-ce qui se passe concrètement pour les personnes ? Et éventuellement, quels conseils, quels droits on peut faire valoir ?
Alors, sur le Rhône, d'après les chiffres qu'on a pu avoir, il y a eu environ une centaine de perquisitions qui ont eu lieu depuis l'instauration de l'état d'urgence, depuis le 15 novembre. Alors, apparemment, d'après ce qu'on a pu dire, ça, ce n'est pas des informations que j'ai personnellement, hein, c'est aussi les informations qui sont données par le préfet et que chacun a pu se procurer lors d'une conférence de presse qu'il a faite. On a insisté, évidemment, la grande partie des perquisitions a eu lieu dans les 15 premiers jours qui ont suivi l'instauration de l'état d'urgence et les attentats de Paris et Saint-Denis. Depuis, évidemment, on est dans une phase descendante sur le nombre de perquisitions. Alors, de ce que j'ai pu voir à travers ma pratique ou à travers les échanges qu'on a pu avoir avec d'autres personnes, c'est pas très compliqué, hélas. Ils frappent à la porte s'ils sont de bonne humeur. S'ils sont pas de bonne humeur, ils cassent, ils rentrent. Et puis ensuite, ils fouillent. Ils fouillent principalement, ils regardent. Ils peuvent menotter les gens pour être tranquilles. On m'a fait état, moi, de menottage d'un enfant de 13 ans. Et après, on fouille. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, pour eux, c'est de fouiller le matériel informatique, les téléphones portables. Donc ils ont grande liberté, hein, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils viennent évidemment à plusieurs. J'avais entendu donc au mois de novembre, et c'était même presque frénétique. Enfin, disons qu'ils arrivaient à 1h du matin, ils repartaient à 3h et ils allaient faire une autre perquisition dans la foulée. Donc il y avait vraiment c'était assez rodé. Ça s'enchaînait. Et après, on remet un document qui fait état de la perquisition, de la décision. Mais les gens repartent. Après, qu'est-ce qu'il en est ? Ça dépend. Il peut très bien ne rien se passer, rien du tout, aucune suite judiciaire. Apparemment, c'est le cas, puisque sur les chiffres qui ont été fournis par la préfecture, donc plus d'une centaine de perquisitions, 110, je crois, de mémoire, et 32 ouvertures d'enquête ou d'instruction judiciaire, enfin, pour des faits, mais de droit commun, hein, je ne parle pas de terrorisme, 32 ouvertures d'enquête, ou en tout cas qui ont donné lieu à la révélation de faits délictuels ou criminels. Ça peut être du stupéfiant, ça peut être des saisies d'armes, ça peut être autre chose, hein, ça peut être des images pédopornographiques, peu importe. En tout cas, aucune ouverture d'informations judiciaires ou d'enquête en lien avec des faits terroristes, mais du droit commun classique. Donc ça veut dire que 70% des perquisitions sont tombées à l'eau, n'ont rien donné, avec des personnes qui sont évidemment choquées, traumatisées, et je le pense aussi, qui ont eu honte de ce qui s'est passé, puisque vous avez une vingtaine de policiers qui débarquent à votre domicile, en pleine nuit, qui cassent tout, qui retournent l'appartement, qui repartent. Après, sur ces 70 perquisitions, qu'en est-il ? Qu'il en est, enfin, pour elles qui ont été finalement, leur domicile a été on a pénétré dans leur domicile, quid de ces 70 perquisitions, n'en sait rien.
Juste pour vous prévenir, tout à l'heure on évoquera aussi les recours possibles ou les procédures utilisables, notamment après une perquisition, on y reviendra tout à l'heure.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Vous Donc, s'agissant de l'assignation à résidence, donc une des mesures que peut prendre le ministre de l'Intérieur, et seulement le ministre de l'Intérieur, hein, c'est pas le préfet, à l'égard d'une personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il faut rappeler que la personne doit résider dans la zone où a été déclaré l'état d'urgence, donc en l'espèce depuis novembre 2015, sur la France. Toute la France est concernée par l'état d'urgence. La personne peut être astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation déterminé par le ministre, c'est-à-dire qu'il doit rester par exemple chez lui ou dans un autre lieu, mais donc c'est le ministre qui détermine ce lieu d'habitation, dans une limite maximum de 12 heures sur 24, mais donc ce qui fait déjà beaucoup, et c'est le ministre qui fixe la plage horaire, c'est-à-dire que le ministre peut dire qu'entre midi et minuit, la personne doit rester dans un lieu d'habitation. En aucun cas, alors la loi le rappelle, hein, en aucun cas l'assignation a pour objet de créer des camps où seraient détenus les assignés à résidence. Je pense que c'est une disposition qui a été prise suite au débat, sur la création de camps. Donc voilà, c'est dans la loi du 20 novembre 2015, il est rappelé que ce n'est pas l'objet de l'assignation à résidence, en tout cas pas pour l'instant. Et la loi rappelle également que l'autorité administrative doit prendre toute mesure pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence et leur famille. Cette disposition, moi, m'a surprise. Et bah, peut-être que Thomas t'en sait un petit peu plus.
Non, moi je l'ai découverte aussi quand j'ai travaillé le texte, en effet. Et dans la mesure, je pense, où on restreint la liberté des personnes, l'État en contrepartie doit leur assurer ce minimum vital, ou en tout cas de quoi vivre. Mais alors, concrètement, à quoi ça correspond, honnêtement, c'est peu débattu là-dessus. J'ai pas une idée. Est-ce qu'on peut recevoir des aides? Est-ce qu'on peut... Aucune idée là-dessus.
Et je suis même pas sûre que les personnes qui sont assignées à résidence soient au courant de ce dispositif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'assigné à résidence a donc deux obligations. La première, c'est de se présenter au service de police ou de gendarmerie, selon une fréquence que détermine encore une fois le ministre, dans la limite de 3 présentations par jour. Et le ministre indique également si cette présentation s'applique les dimanches et les jours fériés. 3 présentations par jour, c'est souvent énorme et ça peut empêcher des personnes de travailler. Donc, est-ce que la disposition relative à cette possibilité que l'autorité administrative assure la subsistance des personnes assignées à résidence, est-ce que c'est un aménagement à suivre. Et la deuxième obligation, c'est la remise au service ministériel du passeport et de tout document d'identité des personnes. Également, l'assignation à résidence peut prévoir une interdiction d'entrer en contact avec des personnes qui sont nommément désignées dans l'assignation, dont il existe également des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et ordre public. En fait, on peut interdire deux assignés à résidence d'entrer en contact. Alors, moi j'avais aussi quelques questions. Thomas, est-ce que tu sais combien d'assignations à résidence ont été prises en France, ont été prises dans le Rhône, et quelle est la durée de ces assignations à résidence? Parce que l'article 6 de la loi, donc du 20 novembre 2015, ne prévoit pas de durée.
Alors, sur le nombre d'assignations à résidence, il y en a environ 350, je crois, sur toute la France et sur le Rhône. 10 assignations étaient prononcées. Le département du Rhône est le cinquième en ratio entre le nombre d'assignations à résidence et le nombre d'habitants. Donc on est le cinquième, c'est la même chose pour les perquisitions, on est le cinquième. Les 3 premiers sont 3 départements de la proche banlieue parisienne. Ensuite, il y a les Alpes-Maritimes et le Nord. C'est sur la durée. Alors, le texte n'en fixe pas, mais en fait, le Conseil constitutionnel a décidé dans sa décision du 22 décembre dernier, qu'a rappelé le collectif tout à l'heure, que En effet, il y avait une incertitude hein, sur cette question de durée. Des tribunaux administratifs ont suspendu des assignations à résidence parce qu'elles n'étaient pas limitées dans le temps. Le Conseil constitutionnel a remédié à cela et prévoit que l'assignation à résidence qui a été prononcée le 18, le 20 novembre, le 1er décembre, peu importe, se terminera nécessairement avec la fin de l'état d'urgence numéro 1. Donc se terminera le 26 février. Ce qui signifie que si la personne, si l'autorité préfectorale ou le ministre veut continuer à ce que la personne soit assignée à résidence, devra reprendre une nouvelle assignation. Donc ces personnes-là se trouvent vraiment dans une situation, pour l'instant évidemment, ils n'en savent rien. Donc 10 personnes pour l'instant, là. C'est vrai que ça ne fait pas énorme, on peut penser, hein, sur le département du Rhône, c'est d'ailleurs l'argument du préfet, en disant « je n'ai pas assigné à résidence de manière irraisonnée », puisque en effet, 10 personnes, qui sont-elles? On n'en sait trop rien, même nous, les avocats du barreau de Lyon, on a du mal à communiquer entre nous pour savoir ce qu'il en est, si des recours ont été formés, où est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont en ville, pas en ville. Après, concrètement, oui, c'est pointé 3 fois par jour au commissariat, du lundi au dimanche. Pour le dossier que je connais, c'est 9h, 15h, 18h. Donc évidemment, aucune vie personnelle, aucune vie professionnelle. Alors, le préfet a beau jeu de dire que quand les personnes travaillent, ce qui n'est pas le cas de la personne que je connais, ils peuvent aménager les horaires pour lui permettre de travailler, avec en particulier en prévoyant 2 pointages, le matin et un en fin de journée. Voilà, alors c'est une mesure, un ovni juridique, hein. L'assignation à résidence, elle existe déjà dans notre droit, elle existe en droit des étrangers pour les personnes qui sont en instance de renvoi, pour elles ne sont pas placées en rétention, on peut les assigner à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Là, on est vraiment dans une mesure particulière, hein, qui avait été créée en 55, hein, à l'encontre des nationalistes, prévue spécifiquement pour les nationalistes algériens, alors qu'il y avait été dans des proportions nettement plus, hein, il y avait des milliers de personnes qui avaient été assignées à résidence sur plusieurs années, donc on était vraiment rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'était d'ailleurs cette possibilité des camps, c'est ce qui s'était passé en 55. Hein. On avait regroupé des nationalistes algériens pour mieux les contrôler, pour éviter en particulier qu'ils partent en Algérie pour mener la guerre d'indépendance. Alors aujourd'hui, pas de crainte là-dessus, même si cette histoire des camps avait été évoquée un moment par Wauquiez. On n'en est pas là, hein, Dieu merci. Après, c'est une autre difficulté ces personnes, je pense. L'idée que je me fais, hein, qu'ils doivent être assez isolés, honteuses de ce qui se passe, qu'ils sont un peu coupés du monde, coupés des autres, qui n'ont plus de, vraisemblablement de vie sociale, qui vivent comme des parias, qui se cachent et qui attendent la date du 26 février pour savoir ce qui va en être, s'ils vont pouvoir reprendre une vie normale. Ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'il en est, mais elles n'ont pas été, n'ont jamais vu de juge judiciaire, ont vu peut-être un juge administratif, si elles ont contesté cette mesure d'assignation à résidence. Mais se trouve, je pense, oui, dans une zone grise, en situation, je pense, de honte énorme vis-à-vis de leurs proches, de leur famille. Alors, peut-être, hein, j'en sais rien, peut-être qu'en effet, ce qui m'inquiète, ce qui pose problème, c'est que s'il existe des raisons contre elles, c'est la loi a changé, hein, puisque maintenant, avant, on exigeait, la loi exigeait un comportement, une activité matérielle tangible. Là, maintenant, c'est des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. Là, on est dans le subjectif, dans l'indice, dans le faisceau d'indices. Mais à aucun moment, on le poursuit pour quelque chose, pour une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Rien de tout ça. On est dans l'indicible. Alors, voilà, après, je peux juste terminer là-dessus. J'ai entendu, c'était à la radio sur France Culture, il y avait les services de renseignement, enfin une personne qui était spécialisée là-dedans, qui expliquait que le but, c'est en fait de maintenir des personnes à résidence, comme ça, ils peuvent s'occuper des gros poissons. C'est-à-dire que ces personnes-là seraient en fait des gens qui peuvent être inquiétantes, etc., mais pas plus, mais au moins, elles sont assignées à résidence, donc les services de renseignement n'ont plus à s'en occuper, et elles peuvent s'occuper d'autres personnes et se consacrer à des tâches peut-être plus importantes. Donc on serait face à des personnes... Et c'est ça qui pose difficulté. Alors, je vais finir parce que je suis long. Mais quel est le but, en fait, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est ces personnes sont assignées à résidence pendant 3 mois. On pense qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles, l'État, qu'elles sont une menace pour l'ordre public. Mais quid après? Dans 3 mois, ou dans maintenant 3 semaines, quid ces raisons sérieuses ont disparu, elles sont arrêtées, se sont déradicalisées, on n'en sait rien. Alors qu'il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucun suivi. Les personnes qu'on enferme quasiment... pendant 3 mois, peut-être pendant 6, mais après, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est leur faire peur, peut-être, c'est tout, mais sinon, il n'y a aucun accompagnement qui existe, et ce que pourrait faire le juge judiciaire.
Sachant qu'en plus, dans l'eau, il y avait, enfin, il y a eu médiatiquement, on a su qu'il y avait aussi eu des cas qui avaient rien à voir avec avec les attentats ou quoi, et ça avait été des assignations en résidence de militants pour alors, par rapport à la COP21.
Oui, il y a eu ce débat au moment de la COP21, mais et c'est eux d'ailleurs hein, qui ont porté le débat jusqu'au Conseil d'État, etc. Mais c'est ça qui inquiète, c'est des gens qui ont l'habitude de militer, c'est des gens qui ont l'habitude d'être sur le devant, donc ils n'ont eu aucune difficulté à porter ce combat. Moi, je pense à ces gens qui sont franco quelque chose, hein, faut pas se cacher, c'est souvent, je pense, des personnes qui n'ont pas forcément la nationalité française, qui sont musulmanes, hein, ça c'est sûr, et qui se retrouvent au bord de la société stigmatisées, c'est évident, qui, elles, n'iront peut-être pas porter le combat jusqu'au Conseil d'État, qui, elles, n'iront pas, seront pas, n'ont pas peur d'aller médiatiser leur affaire, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur qu'on parle d'eux en disant ça y est, c'est un terroriste, alors que non. Voilà, c'est ça la difficulté. Il y a eu à un moment le combat sur le COP21. Après, maintenant, le combat est plus dur parce que c'est des personnes de l'ombre qui essayent peut-être de se battre. Ou elles ne se battent pas, j'en sais rien.
À la fin, on ne sait pas trop ce que ça présage. Parce que hier, c'était la COP21. Demain, ça peut être autre chose. Enfin, c'est avec la prolongation. Mais c'est vrai que la loi, elle est quand même assez floue.
Oui, on est dans le faisceau d'indices. Quand le ministère répond, il parle de faisceau d'indices.
On n'a pas
rapporté la preuve formelle qu'il y a une menace pour l'ordre public. On est dans le faisceau d'indices. Donc même des faisceaux disparates, même des indices qui se tiennent d'événements éloignés dans le temps, voilà, ils piochent à droite à gauche. Et en fait, c'est les services de renseignement qui leur fournissent ça.
Ouais, mais et puis surtout, la menace à l'ordre public, ça ne concerne pas forcément que la menace terroriste.
Pas que la menace terroriste.
Et c'est là aussi que c'est...
C'était le cas pour la COP21. Qu'est-ce qu'il en est après pour débattre, hein. Il y a les supporters de foot qui se plaignent aussi que je puisse se déplacer et aller à Geoffroy Guichard ou au stade à Lyon. Voilà, donc après maintenant, il y a eu la question des marchés de Noël, puisque les marchés de Noël étaient autorisés, des manifestations n'étaient pas autorisées au cours du mois de décembre. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a moins d'événements, il n'y a pas d'événements planétaires, il n'y a pas de risque pas tant. Donc voilà, l'histoire des militants écologistes étaient, c'est sûr, très intéressantes. Maintenant, on est revenu un peu dans le, si je peux dire, le quotidien, même si c'est une situation exceptionnelle.
Mais là où j'aurais envie de faire un lien avec la loi sur le renseignement par rapport à ce que tu disais là du mec de la sécurité, du renseignement interviewé, c'est que l'assignation à la résidence, là, comme il la présentait, c'est aussi ça qui fait que dans la loi sur le renseignement, il y a une augmentation de tout ce qui est les moyens technologiques là pour prendre les contacts et surveiller et du coup augmenter les faisceaux d'indices pour et faciliter et mettre un peu tout le monde sous surveillance pour faciliter les recherches des renseignements. En fait, tout. J'ai l'impression d'entendre chaque fois le même argument décliné d'une manière un peu différente, mais voilà.
Non, là, c'est sûr, il y a eu télescopage. Hein. La loi renseignement de 2015, après les attentats, la loi qui a été présentée aujourd'hui au Conseil des ministres, qui n'était pas du tout destinée à ça, c'était une loi de procédure pénale qui devait renforcer le caractère contradictoire de la procédure, et finalement, ils ont glissé plusieurs dispositions dans le code de procédure pénale pour faciliter l'action du procureur de la police ou du préfet, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Oui, il y a tout qui se télescope. Après, on doit se poser des questions. C'est évident qu'on doit adapter notre arsenal législatif. On est face à une attaque immense, unique. Évidemment que l'État doit réagir et doit s'adapter. Après, je pense que les outils qui existent, et je pense particulièrement à l'assignation à résidence, c'est pas adapté, n'a pas de sens. C'est quelque chose qui a été créé en 1955 pour lutter, on était en guerre. Alors là aussi, on peut dire qu'on était en guerre, mais l'État menait une guerre face à des indépendantistes et a pu faire ce système de masse global, et alors, je ne suis pas là en train de le justifier, mais je pense qu'il avait complètement mis de côté le juge judiciaire. Et aujourd'hui, avec les moyens dont dispose le juge judiciaire, et en particulier les moyens techniques, puisque maintenant on peut surveiller par téléphone, il y a des moyens qui existent qui peuvent être placés sous le contrôle du juge, ce qui n'est pas le cas du tout. Et l'assignation à résidence qu'on a sorti du chapeau 60 ans après pose problème. Alors après, on peut rien faire. La vox populi pour ailleurs, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est que 10 personnes. Voilà. Mais ça pose aussi la question de notre état de droit.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors du coup, on va essayer de voir quels sont les recours possibles lorsqu'on est victime de ce type de mesures. Je pense aux perquisitions administratives et aux assignations à résidence. Après, il y en a d'autres également. On se situe, c'est là-dessus qu'on a insisté depuis tout à l'heure, vraiment sur des décisions administratives qui ont été prises. Du coup, sauf erreur, c'est le juge administratif qui est compétent et qui, en termes de garantie des libertés, alors c'est un peu de la nuance juridique de dire le juge judiciaire, donc le juge civil et le juge administratif, c'est pas les mêmes, il y en a un qui garantit des libertés ou pas. C'est aussi une réalité, c'est-à-dire que le juge administratif, c'est le juge de l'administration, mais les juges administratifs sont souvent issus également de l'administration, donc c'est un juge un peu frileux quand il s'agit de défendre les libertés. Et puis, de fait, leur rôle est assez limité, puisqu'ils sont vraiment sur la légalité des décisions qui ont été prises. Et eux-mêmes sont d'ailleurs un peu inquiets de ce qui se passe, puisque sur Mediapart, il y a une tribune de juge administratif qui a été publiée, où, sous couvert d'anonymat, ils sont une dizaine à dire, mais... Enfin, on est limité dans nos moyens, donc on peut pas assurer, on peut pas garantir les libertés individuelles. Donc c'est dire où on en est, parce qu'un juge administratif en général parle pas beaucoup. Donc c'est quand même signe, vraiment, c'est très mauvais signe. En attendant, pour l'instant, ce qui existe comme possibilité de recours, c'est de saisir, donc s'agissant des assignations à résidence, de saisir le juge administratif pour demander l'annulation et la suspension de la décision qui a été prise contre la personne. Pour vous dire à quel point les juges sont frileux, c'est que les premiers juges qui ont été saisis, notamment je pense aux militants écologistes, qui ont saisi le tribunal administratif en lui demandant de suspendre l'assignation résidence en considérant qu'il y avait une urgence parce que c'est quand même une entrave à la liberté d'aller et venir, au début ils ont dit bah non, il n'y a pas d'urgence en fait. Donc du coup, il n'y a pas de souci, on verra ça dans un an et demi quand on jugera les choses. Le Conseil d'État, qui est quand même pas réputé pour être progressiste, a dit bon, quand même, effectivement, il y a une atteinte aux libertés fondamentales, ce serait peut-être bien vraiment de juger rapidement, il faut au moins qu'on donne le change à ce niveau-là. Sur le fond, la mesure est justifiée, par contre, mais il y a quand même urgence et il faut qu'on constate rapidement. Donc, tout ça pour dire que si jamais la personne est assignée à résidence, il faut qu'elle fasse une requête devant le tribunal administratif. On ne peut que vous conseiller, c'est encore une fois pas pour prêcher pour notre chapelle, mais là d'être accompagné avec un avocat, parce que même avec un avocat, c'est pas simple. Thomas pourra en témoigner. Mais du coup, il y a quelques... Enfin, moi, j'ai vu passer une décision d'un tribunal d'Orléans qui a suspendu. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand il s'agit de justifier pourquoi il confirme la décision, il y en a des tonnes. Là, on sait juste que, manifestement, c'est illégal, donc ils suspendent. Mais ça peut arriver des fois. Donc, c'est la seule possibilité qui existe. Peut-être tu peux dire un mot de ton audience de la semaine dernière.
Oui, c'était public, hein, pas de difficulté. Donc, avec mon client, nous avons contesté l'assignation à résidence. Alors, par un référé, c'est-à-dire au titre de l'urgence que tu as rappelé tout à l'heure, pour avoir une décision rapide, et un recours au fond, puisque c'est obligatoire en la matière. Il se trouve que, d'habitude, en effet, le délai pour avoir une audience et un jugement, c'est un an et demi. Là, vu les circonstances, ils m'ont écrit texto, le tribunal administratif a rendu sa décision dans les 3 semaines au fond. C'est-à-dire que j'ai eu une décision au fond sur la légalité de la mesure, avant même que le référé. Donc, j'ai eu une décision qui est tombée vendredi, un rejet de la requête que nous avions formée. Alors, on peut dire que là-dessus, ils ont pris conscience de l'importance de la chose. Hein. Ils avaient créé une audience spéciale. C'était le seul dossier qui passait ce matin-là. Ils m'ont laissé plaider hein, sans difficulté. Il n'y a pas eu d'obstruction de leur part. Ils étaient à l'écoute. Ils ont même posé quelques questions à mon client, ce qui est assez rare, puisque pour les auditeurs, c'est une procédure en principe écrite dans laquelle les observations... Il n'y a pas d'observation orale, en tout cas, des requérants. Donc là-dessus, le tribunal, en tout cas, a donné le change. Après, sur la décision, c'est simple. Hein, comment ça se passe? On attaque la décision avec un recours en disant « c'est pas vrai ce que vous dites ». En réponse, le préfecture, enfin, c'est le ministère de l'Intérieur, mais qui conclut, produit la note blanche, tout simplement, cette fameuse note blanche, et l'assignation à résidence est un copier-coller intégral de la note blanche des services de renseignement. Une note blanche, il y a la photo de la personne, il y a son état civil, et ce qu'on lui reproche, ou en tout cas les faits par lesquels ce serait signalé à leur attention. La préfecture ensuite reproduit finalement cette note blanche pour dire qu'elle ne peut pas en dire plus et qu'elle doit garantir la sécurité des sources du renseignement et des informateurs, qu'ils soient sur place ou en France. Donc elle se réfugie derrière ce secret-là Et elle fait état aussi que si jamais on n'en sait pas plus, c'est aussi parce que les personnes sont discrètes. Ça, je l'ai vu dans toutes les mémoires en réponse qui ont été faites par la préfecture, qui citent des journaux, des publications d'Al-Qaïda et qui incitent les djihadistes à rester discrets lorsqu'ils sont en Occident. Donc, c'est l'argument de la préfecture en disant, regardez, Al-Qaïda recommande d'être discret, donc ça, ils sont forcément discrets, donc on peut pas, mais on peut pas tout dire. Donc voilà. Après, on a une audience avec le représentant, là c'était le directeur de cabinet du préfet qui était présent, qui a dit quelques mots, hein, qui n'en a pas fait des tonnes et qui s'en est, comme on dit dans notre jargon, rapporté à ses écritures. Voilà, mais il y a une audience sereine en tout cas. Ils n'ont pas été non plus très attentifs à la situation de mon client qui aurait voulu plus parler. Bon, là, ils ont rendu la décision assez rapidement. C'était prévisible et on est en train d'étudier, voir si on fait appel.
Juste une petite info pratique sur les recours possibles et les liens avec les avocats, etc. pour être défendu quand on veut faire un recours de ce type. Il faut savoir que dans le Rhône, et je crois que c'est pas que dans le Rhône, la Ligue des droits de l'homme a mis en place un comité en lien avec le syndicat des avocats de France pour justement pouvoir que les personnes qui ont besoin d'être défendues puissent accéder facilement déjà à la Ligue des droits de l'homme et à des juristes et à des avocats.
Et alors, s'agissant des perquisitions administratives, bon, une fois que le mal est fait, ça a été fait. Il y a pas de toute façon, on peut pas contester. Ça serait totalement inutile la décision initiale de perquisitionner. Par contre, il y aurait une possibilité d'imaginer de faire des recours indemnitaires, c'est-à-dire de demander au tribunal administratif de condamner l'administration à réparer le préjudice qu'on a subi. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si des recours ont été introduits. Je pense que c'est intéressant de faire et surtout. L'intérêt, c'est qu'en fait, les personnes qui ont été perquisitionnées ont 4 ans pour demander ce recours indemnitaire. Donc, ça vous. Enfin, voilà, je lance un appel comme ça. un peu, sachant que là, pour le coup, pour ce type de recours-là, il y a l'obligation de recourir à un avocat.
Quand tu parles de recours indemnitaire, c'est-à-dire que tu es indemnisé, par exemple, s'ils ont pété ta porte ou par exemple, si tu dis que tu as été traumatisé.
Les deux. Mais par contre, il faut arriver à le chiffrer et le juge administratif est assez radin. non, mais. C'est-à-dire que, par exemple, je pense.
Il faut prendre des photos aussi de ce qui s'est passé.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment pouvoir justifier de la facture de la porte. Bon, ça, évidemment, ça, c'est facile à justifier, mais d'expliquer comment ça s'est passé, éventuellement d'avoir des vidéos, des choses comme ça. Alors, les vidéos, le problème, c'est qu'on ne peut pas les produire devant le tribunal administratif, mais l'idée, ce serait d'éventuellement dire voilà, j'ai subi un préjudice moral. Y compris parce que mon gamin a vu ma porte se faire défoncer. Enfin, on a entendu des histoires comme ça pendant le Rhône, mais à Nice notamment, d'enfants qui ont pris cher aussi.
Enfin, dans le Rhône aussi.
Aussi, d'accord. Ouais,
puis, et les voisins qui après ne parlent plus parce qu'ils suspectent de je sais pas quoi.
C'est ça. Donc du coup, ça peut. Voilà. Après, pour réussir à obtenir quelque chose, il faut prouver qu'il y a une faute de l'administration. Donc de montrer que la perquisition était. Enfin voilà, qu'il n'y avait vraiment aucun moyen. Enfin, qu'il y a vraiment une erreur, une grosse faute de l'administration. Et puis réussir à chiffrer le préjudice. Et puis surtout, ça prend du temps. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on peut entendre, par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec notre domaine, mais. Autant, par exemple, les salariés au prud'homme peuvent gagner des sommes importantes quand ils ont été injustement licenciés. Autant un fonctionnaire qui aurait été licencié de façon irrégulière sera indemnisé, mais les proportions de chiffres sont vraiment rien à voir. C'est-à-dire que le juge administratif est soucieux aussi que les deniers publics, de l'argent public, et donc il peut indemniser, mais les sommes ne seront pas forcément monumentales. Cela étant, je pense que ce serait intéressant que ce soit fait aussi, parce qu'effectivement, ça ne doit pas rester. Ça peut pas rester sans réponse le fait qu'il puisse y avoir des perquisitions qui soient complètement pas forcément abusives, mais en tout cas il y a un vrai préjudice et du coup ça serait intéressant qu'il y ait des recours qui soient faits, mais je sais pas du tout si ça a été fait actuellement ou pas.
Juste pour finir, peut-être pour si les auditeurs et auditrices veulent aller un petit peu plus loin, il y a un texte intéressant.
Il n'y a pas le mot du mois aujourd'hui ?
Non, il n'y a pas le mot qu'on ne comprend rien aujourd'hui. Parce qu'il y avait l'invité, on voulait lui laisser le temps de parler.
Je venais pour le mot du mois, pour le mot qu'on ne comprend rien.
Non, on va finir par quelque chose de plus intelligent que notre mot qu'on ne comprend rien. Non, il y a un texte qui est intéressant, qui a été écrit par plusieurs organisations, dont le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, l'OIP, Amnesty, Logisti, qui s'appelle « L'urgence d'en sortir ». C'est une analyse juridique de l'état d'urgence et de la façon dont on peut le contester, et notamment par rapport aux engagements internationaux de la France. Donc si les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin peuvent lire ce texte qui est intéressant.
On le mettra en ligne sur notre blog.
Ouais, on le mettra en ligne sur le blog. Et puis, on finit peut-être en remerciant beaucoup Thomas Fouet d'être venu avec nous et de nous avoir fait partager ses connaissances pratiques sur cette question-là, qui malheureusement n'est pas finie, parce que peut-être que dans plusieurs mois, on en parlera encore. Parce qu'on disait sur les événements futurs qui peuvent justifier ce type de mesure, il y a quand même l'Euro 2016. Et le procureur de la République, lors de la rentrée du TGI récemment, a indiqué qu'il avait beaucoup de craintes sur les risques d'attentats dans le Rhône et sur certains lieux comme la place des Terreaux pendant l'Euro 2016. Donc on ne sait pas si ça va être le prétexte aussi pour d'autres mesures et puis une prolongation de l'état d'urgence. Donc et à suivre.
Merci au Canu Info de nous accueillir comme tous les mois ou tous les deux mois. Enfin, ça dépend des fois. Quoi.
Et ben, on voulait terminer en parlant de la manif pour mettre fin à l'état d'urgence, justement, de mettre cette émission en pratique, et c'était samedi dernier, mais c'est également ce samedi 6 février à Lyon, au départ de Jean Massé à 14h, pour la fin de l'état d'urgence, puisqu'ils veulent peut-être même le reconduire encore de 3 mois, l'amnistie des inculpés du mouvement social et l'arrêt immédiat des interventions militaires et politiques françaises à l'étranger qui créent les conditions du développement du terrorisme. Et il faut qu'on finisse cette émission avant que tout le monde se fasse mal.
On est un peu en retard, merci de nous avoir écoutés. On laisse la place à Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Au revoir.